Deuxième partie. Chapitre 13. Laurel tend une pièce de 2 livres à la jeune fille qui lui a lavé les cheveux. « Merci, Dora », ajoute-t-elle en lui adressant un sourire. Elle donne à la coiffeuse un billet de 5 livres. « Merci, Tania, c'est très bien, comme d'habitude. » Elle se regarde une dernière fois dans le miroir avant de sortir. Ses cheveux blonds, brillants et aériens, lui arrivent maintenant aux épaules. Mais ce masque capillaire impeccable n'est qu'un simulacre. Le problème ne réside pas dans son cuir chevelu. Si Laurel pouvait trouver quelqu'un à Stroud Green qui ferait un shampoing coupe-brushing à son âme pour 80 livres, elle lui donnerait bien plus que 5 livres de pourboire. Le vent souffle fort en cet après-midi d'automne, et ses cheveux sont un tissu soyeux soulevé par les bourrasques. Il est un peu tard, et elle a faim. Trop faim pour attendre de rentrer et de se préparer un repas chez elle. Alors elle entre dans un café à côté du salon de coiffure pour acheter un sandwich au fromage et un cappuccino décaféiné. Elle mange vite. Le fromage fondu fait des filaments qui se détachent lentement du pain et se collent à son menton. Elle est en train de s'essuyer avec une serviette en papier quand un homme entre dans le café. Il a une 50aine d'années et est de taille et de corpulence moyenne. Ses cheveux sont courts, gris au niveau des tempes et plus sombres au sommet de son crâne peu garni. Il porte un jean saillant, une chemise ajustée, des chaussures à lacets et des lunettes à monture en écaille. C'est tout à fait le genre de tenue que Paul porterait. Et malgré les sentiments terriblement confus qu'elle ressent actuellement à son égard, il faut reconnaître qu'il a de l'allure. Elle se rend compte, à sa grande surprise, qu'elle admire l'homme qui vient d'entrer. Il a quelque chose de spécial, un charisme naturel et une sorte d'étincelle dans le regard. Elle l'observe pendant qu'il fait la queue au comptoir et remarque de nouveaux détails. Un ventre plat mais souple, des mains fortes, une oreille à peine plus décollée que l'autre. Il n'est pas d'une beauté canonique, mais il a l'air d'un homme qui a depuis longtemps renoncé à séduire en jouant de son physique. Il a le charme de ceux qui misent sur leur personnalité. Il commande une part de gâteau aux carottes et un café noir, avec un accent que Laurel ne reconnaît pas tout à fait. Il est peut-être américain, ou alors c'est un étranger qui a appris l'anglais avec des Américains. Il s'assied à la table à côté d'elle. La respiration de Laurel s'accélère. Il ne semble pas avoir remarqué qu'elle l'observait. Pourquoi choisit-il la table la plus proche de la sienne dans un café pourtant presque vide? Elle redoute de l'avoir inconsciemment invité à s'intéresser à elle. Elle ne veut pas qu'il le fasse. Elle ne veut pas qu'on s'intéresse à elle. Ils sont maintenant assis l'un à côté de l'autre. Il ne la regarde pas, pas une seule fois. Mais Laurel sent cette intention irradiée de lui. Il est absorbé par son téléphone. Laurel achève de manger son sandwich en prenant de petites bouchées. Rien ne se passe. Ça devait être dans sa tête. Elle finit son café et s'apprête à partir. « Vos cheveux sont magnifiques. » Elle se retourne, sous le choc. « Pardon ?»« C'est très réussi. »« Merci, » répond-elle en se passant machinalement la main dans les cheveux. « Je sors de chez le coiffeur. Ils ne sont pas aussi beaux en temps normal. » Il lui sourit. « Vous avez déjà goûté leur gâteau aux carottes ?» Elle fait non de la tête. « Il est excellent. Vous en voulez ?»«
Non, merci, je... »
Elle a un rire gêné. « J'ai une cuillère propre, tenez. » Il pousse le couvert vers elle. « Allez-y, je ne vais pas manger tout ça. » Un rayon de soleil traverse le café, vif comme celui d'une lampe de poche, et éclaire la cuillère qui étincelle et le gâteau entamé. L'instant est étrangement intime, et l'instinct de Laurel lui dit de reculer, de fuir. Mais, face à cette cuillère qui scintille, elle sent quelque chose s'ouvrir en elle. Quelque chose qui ressemble à de l'espoir. Elle la saisit et coupe un petit morceau du gâteau, là où il est encore intact. Il s'appelle Floyd. Floyd Dunn. Il lui tend la main. « Enchanté de vous rencontrer. Laurel Mack. » Ce contact est ferme et chaleureux. « Je ne reconnais pas votre accent. » Elle rapproche sa chaise de la table voisine. Le soleil réchauffe sa nuque. « C'est normal, » explique-t-il en s'essuyant la bouche. Mon accent est assez unique. Je suis le fils de 2 Américains ambitieux qui ont travaillé aux 4 coins du monde pour faire fortune. J'ai vécu 4 ans aux États-Unis, 2 au Canada, 4 ans de plus aux États-Unis, 4 en Allemagne, 1 à Singapour, puis 3 au Royaume-Uni. Mes parents sont rentrés en Amérique, je suis resté ici.
Et vous êtes ici depuis longtemps?
Je suis arrivé... Il plisse les yeux en calculant. Il y a 37 ans. J'ai un passeport britannique, des enfants britanniques, une ex-femme britannique. J'écoute The Archers à la radio. Je suis plutôt bien assimilée.
Il lui sourit et elle rit de bon cœur. Elle se force à prendre du recul. Elle est assise dans un café en plein après-midi, parle à un inconnu, et s'esclaffe à ses bons mots. Comment en est-elle arrivée là, après tous ces jours, ces centaines de jours sombres qui ont passé depuis la disparition d'Ellie? Est-ce que c'est ça, le deuil? Est-ce que c'est ce qui arrive quand on enterre enfin son enfant?
Vous habitez le quartier?
Non, j'habite à Barnett. Mais j'ai vécu ici pendant plusieurs années. Je n'ai pas changé de coiffeur, ajoute-t-elle avec un petit signe de la tête en direction du salon. Je suis terrifiée à l'idée que quelqu'un d'autre touche mes cheveux. Alors je reviens régulièrement.
Apparemment, ça vaut le coup.
Oui, il y a un peu de séduction dans sa voix. Et si c'était un pervers? Elle ne peut pas exclure cette possibilité. A-t-il quoi que ce soit d'étrange, d'inquiétant? Y a-t-il des signes qu'elle ne parvient pas à repérer? Va-t-il l'arnaquer, la violer, l'enlever, la suivre? Est-il fou? Ou...
Laurel se pose ce genre de questions chaque fois qu'elle rencontre quelqu'un. Elle n'a jamais accordé sa confiance facilement, même avant la disparition de sa fille. Paul lui disait qu'elle était un projet à long terme. Elle avait refusé de l'épouser jusqu'à ce qu'ils aient leur premier enfant, car elle avait peur qu'il ne soit pas sérieux et lui fasse faux bond le jour de la cérémonie. Et maintenant, elle se pose ces questions avec encore plus de sérieux, parce qu'elle sait qu'il vaut mieux s'attendre au pire. Cependant, même en observant attentivement cet homme aux yeux et aux cheveux gris, à la peau douce et aux chaussures élégantes, elle ne trouve rien à lui reprocher, mis à part le fait qu'il ait fait un pas vers elle. « Merci, » lui répond-elle après son compliment. Elle recule sa chaise, prête à partir, espérant secrètement qu'il lui demandera de rester.
« Vous devez déjà y aller ?»«
Oui, » déclare-t-elle en cherchant une excuse. « Il faut que je passe voir ma fille. » Elle ne doit pas passer voir sa fille. Elle ne voit jamais sa fille.
« Vous avez donc une fille ?»
Oui, et un fils.
Un de chaque.
Oui, murmure-t-elle, le cœur transpercé par la douleur de nier l'existence d'Ellie. Un de chaque.
Moi, j'ai deux filles.
De quel âge? Demande-t-elle en attrapant son sac.
21 et 9 ans.
Elles vivent avec vous?
Celle de 9 ans, oui. Celle de 21 vit avec sa mère.
Ah oui?
C'est un peu compliqué, conclut-il avec un sourire.
Qu'est-ce qu'il n'est pas?
Elle lui rend son sourire. Puis, il déchire un coin du journal laissé sur la table d'à côté et sort un stylo de sa poche.
C'était agréable de discuter avec vous, mais c'était beaucoup trop court. J'aimerais vous inviter à dîner.
Il griffonne un numéro sur le morceau de papier et le lui tend.
Appelez-moi.
Appelez-moi. Si simple, si confiant, si direct. Elle ne savait pas que les êtres humains pouvaient se comporter ainsi. Elle prend le morceau de papier et le froisse entre ses doigts.
« D'accord. Enfin, peut-être. »
Il éclate de rire, révélant au passage quelques plombages sur ses dents.
« Peut-être. C'est déjà ça. »
Elle sort du café précipitamment, sans se retourner. Ce soir-là, pour la première fois de sa vie, Laurel passe chez sa fille à l'improviste. Quand elle ouvre la porte, le visage d'Anna se fige dans une expression où se mêlent l'incompréhension et l'inquiétude.
« Maman ? Bonsoir, ma chérie. »
Anna jette un coup d'œil derrière sa mère, comme s'il devait nécessairement y avoir une raison visible à sa présence devant chez elle.
« Il y a un problème ?
Non ! Tout va bien. Je passais dans le quartier et je me disais qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps. »«
On s'est vu dimanche. »
Anna était passée lui donner son vieil ordinateur mais n'était même pas entrée prendre le thé.
« Oui, c'est vrai, mais ce n'était pas vraiment... »
Anna, pieds nus, se balance d'une jambe sur l'autre.
« Tu veux entrer ?»«
Volontiers, Anna. Merci. »
Anna porte un jogging et un t-shirt blanc moulant où est écrit « chérie ». Elle ne s'est jamais beaucoup intéressée à la mode. Au travail, elle met des tailleurs noirs de chez Banana Republic, et à la maison, des vêtements confortables. Sa mère ne sait pas comment elle s'habille quand elle sort, puisqu'elles ne sortent jamais ensemble.
« Tu veux une tasse de thé ?»«
C'est un peu tard pour moi. »
Anna lève les yeux au ciel. Elle pense que sa mère prétend être sensible à la théine pour l'énerver.
« Moi, je me fais un café. Qu'est-ce que tu veux ?»«
Rien. Ne te dérange pas. »
Elle observe sa fille se déplacer dans sa petite cuisine, ouvrir et refermer les placards, avec ce langage corporel si fermé et discret. Elle se demande si elle a déjà été proche de sa fille un jour.
« Tu étais où, alors ?»«
Pardon ?
Tu as dit que tu étais dans le quartier. »«
Oui, bien sûr. Chez le coiffeur. »
se reprend-elle en touchant ses cheveux, l'omission proférée lui brûlant les lèvres.
« C'est joli.
Merci, ma chérie. »
Avant de poursuivre,
Elle met la main dans sa poche et touche le morceau de journal sur lequel Floyd a griffonné son numéro.
« Il m'est arrivé quelque chose d'intéressant aujourd'hui. »
Anna lui lance un regard inquiet, comme chaque fois que Laurel lance un sujet de conversation, comme si elle avait peur de se faire happer dans une histoire qu'elle n'aurait pas la force de supporter.
« Un homme m'a donné son numéro de téléphone et m'a invité à dîner. »
Le regard inquiet se transforme en terreur. Et Laurel se dit qu'elle aurait payé cher pour avoir cette discussion avec Ellie, et pas avec Anna. Ellie crierait, sauterait de joie, la prendrait dans ses bras en la serrant de toutes ses forces, en lui disant que c'était fantastique, incroyable, génial. Et ses adjectifs seraient devenus une réalité grâce à son enthousiasme débordant.
« Je ne vais pas l'appeler, bien sûr que non. Mais ça m'a fait penser à nous, à notre famille. Nous vivons tous à la dérive les uns des autres, comme des petits îlots séparés.
« En effet, » commente Anna, une pointe d'accusation dans la voix.
« Ça fait longtemps maintenant, et nous n'avons toujours pas trouvé le moyen d'être une famille unie après toute cette histoire. C'est comme si on était coincés, retenus ce jour-là.
Toi, par exemple, au moment où ces mots franchissent ses lèvres, Laurel sait qu'elle n'aurait pas dû dire ça.
« Quoi, moi ?» réplique Anna. « Tu es formidable, bien entendu, et je suis très fière de toi, de ton travail, de ta réussite. » Mais tu n'as pas l'impression parfois de vivre dans une seule dimension? Enfin, tu n'as même pas de chat.
Un chat?
Mais qu'est-ce que tu racontes? Comment je pourrais m'occuper d'un chat? Je passe mon temps à travailler, je ne le verrai jamais, je...
Oublie cette histoire de chat, l'interrompt Laurel en posant sa main sur le bras de sa fille.
C'était un exemple. Ce que je voulais savoir, c'est s'il y a quelque chose dans ta vie en dehors du travail. Des amis? Un homme?
Anna cligne lentement des yeux.
« Pourquoi tu me parles d'homme? Je n'ai pas le temps pour ça. Je n'ai le temps pour rien d'ailleurs, pas même pour cette conversation. »
Laurel soupire et se passe la main dans la nuque.
« J'ai remarqué récemment, quand je venais faire le ménage, que tu ne dormais plus ici tous les soirs. »
Anna rougit et pince les lèvres.
« Et tu t'es dit que j'avais un copain? Peut-être, oui. Je me suis posé la question. »
Anna lui lance un sourire condescendant.
« Non, maman. Malheureusement, je n'ai pas de copain. » Je suis invitée à des soirées de temps en temps, à boire un verre, c'est tout. Il m'arrive de dormir chez des amis.
Elle hausse les épaules et recommence à triturer les peaux mortes qu'elle a autour des ongles. Laurel est incrédule. Anna, faire la fête? Elle n'arrive pas à se l'imaginer. Et sa fille a l'air très mal à l'aise. Elle n'insiste pas.
Je vois, reprend-elle en souriant.
Anna se radoucit et se rapproche de sa mère.
Je suis encore jeune, maman. J'ai tout mon temps pour les hommes et les chats. Pour le moment, c'est impossible.
« Et nous, alors ?» voudrait lui répondre Laurel. « Quand est-ce que notre relation évoluera? Quand est-ce que nous pourrons de nouveau nous comporter comme une mère et fille? Quand est-ce que l'une d'entre nous pourra enfin rire de bon cœur sans se sentir coupable ?»
Mais elle se tait. Elle pose sa main sur celle d'Anna. « Tu as raison, ma chérie. Je sais bien. Je veux simplement que tu sois heureuse. Que nous soyons tous heureux. Je veux...
Tu veux qu'elle y revienne ?» Elle lève les yeux vers sa fille, surprise.
Oui, je veux qu'Ellie revienne. Moi aussi. Mais on sait maintenant qu'elle ne reviendra pas, et qu'il va falloir vivre sans elle. Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison.
Ses doigts trouvent de nouveau le petit morceau de journal. Elle le touche, et un frisson lui parcourt l'échine.